Quand on vint dire à mademoiselle que Lauzun était arrêté, elle éprouva un tel saisissement qu'elle s'étonna de n'en être pas morte. Elle fut jusqu'au surlendemain dans un état pitoyable, quelqu'un lui ayant alors conseillé de ne pas tarder davantage à reparaître devant le roi. Il fallut prendre une résolution. Si elle n'avait eu à penser qu'à soi, mademoiselle aurait dit adieu au monde. Mais il y avait Lauzun qui allait être très attaqué selon l'usage des cours, à présent qu'il ne pouvait plus se défendre et qui n'avait qu'elle au monde pour plaider sa cause auprès du roi. Il était impossible de l'abandonner. Mademoiselle trouva la force de se lever et de se rendre à Saint-Germain. Elle ne vit le roi que le soir, à son souper. Il me regarda avec un air assez triste et embarrassé. Je le regardai les larmes aux yeux. Je ne dis rien. Je sus qu'il avait dit en rentrant chez les dames. Ma cousine en a usé avec bien de l'honnêteté pour moi. Elle ne m'a rien dit. Il aurait été fort imprudent à moi de parler, car il était préparé à tout ce que j'aurais pu dire. La cour de France était alors très gaie et très animée. Monsieur venait de se remarier, 16 novembre, avec Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, si connue par l'originalité de son esprit et par la verdeur de son langage. Le roi, qui avait bon goût en fait d'esprit, se montrait charmé de sa nouvelle belle-sœur et lui prodiguait les fêtes. Mademoiselle s'imposa d'assister à la première. Elle a conté d'une façon pathétique cette soirée abominable où elle avait l'air de regarder un palais tandis que sa pensée suivait au loin un carrosse enveloppé de mousquetaires. De songer qu'il n'y était plus, qu'il faisait un froid, une neige épouvantable, et qu'il était par les chemins, et pour aller en prison, ce qu'il souffrait en cet état, le mien était digne de pitié, et je crois que ceux qui étaient capables d'en avoir de lui, cela leur en donnait de me voir en un lieu où l'on savait bien la peine que j'avais d'y être, toute la consolation que j'y pouvais trouver, c'est que la continuation des sacrifices que je faisais au roi sans cesse pourrait, par ma persévérance, attirer sa pitié sur monsieur de Lauzun et renouveler sa tendresse, ne me pouvant persuader qu'il ne m'aimait plus. J'étais trop heureuse. Si cela lui pouvait être bon à quelque chose, voilà le motif qui m'a attaché à la cour depuis sa prison, qui m'a fait surmonter ma juste douleur pour aller à toutes les choses où mon devoir et mon inclination m'ont dû empêcher d'aller. Mais ce même devoir qui m'aurait retenu chez moi m'a fait faire tous les pas que j'ai faits, qui ne convenaient pas à une personne dont le cœur est aussi pénétré qu'est le mien d'une tendre douleur. Après chaque effort de ce genre, elle s'accordait un peu de relâche pour pleurer dans son coin, puis elle revenait montrer à Louis XIV ses yeux rougis. « Je suis persuadée, écrivait-elle, à propos d'un voyage avec la cour. Que ma présence a fait souvenir de Monsieur de Lauzun. C'est pourquoi je voudrais être toujours devant les yeux. Je ne puis croire qu'il ne prenne toujours mes regards pour des supplications en sa faveur. Elle s'ingéniait à lui rappeler l'absent. Passait-on devant une fenêtre grillée, mademoiselle se mettait à plaindre les gens en prison. Apprenait-on que Lauzun avait été malade, elle sollicitait par lettre l'adoucissement de son régime. Louis XIV ne répondait jamais rien, mais il ne témoignait pas de mécontentement. Les ennemis du disgracié travaillaient à détacher mademoiselle de lui. Il savait son point faible, elle était atrocement jalouse, et il ne fallait pas l'être avec Lauzun, le plus grand coureur de cette cour licencieuse. Au moment de son arrestation, ses papiers avaient été saisis. On y avait trouvé force lettres de femme, des mèches de cheveux et autres gages amoureux, soigneusement étiqueté et une espèce de musée secret, renfermant les portraits que Louis XIV fit détruire. Pas assez vite, toutefois. Ils avaient été vus de plusieurs personnes qui nommèrent les modèles. Les cassettes de M. de Lauzun furent le grand scandale mondain de l'hiver, et il ne manqua pas de gens pour l'exploiter auprès de mademoiselle. Ils en furent pour leur méchanceté. Elle eut la sagesse de ne vouloir rien savoir. C'était le passé. Les mêmes gens essayèrent de lui ouvrir les yeux sur la duperie d'avoir donné son cœur à un homme qui n'en voulait qu'à ses millions. On lui disait:
il ne vous aimait point. Quand on lui a promis de lui donner des biens, des charges, il vous a planté là. Le jour que le roi rompit votre mariage, il joua tout le soir avec une grande tranquillité. Il ne se souciait point de vous.
Elle convient dans ses mémoires que l'on finit par se sentir ébranlé lorsqu'on s'entend répéter de ces choses-là du matin au soir, pendant des années. Ses propres souvenirs ne les confirmaient que de trop. Elle n'avait jamais eu de Lauzun un mot de tendresse ou seulement un mot gracieux. Mais le malheur est une sauvegarde invincible auprès des âmes généreuses. Mademoiselle raconte que son cœur combattait contre elle-même en faveur de son ami, et son cœur l'emportait, puisque chaque nouvelle année la retrouvait aussi dévouée que la précédente, aussi infatigable dans ses efforts pour le faire relâcher. Il ne devait s'en douter qu'au bout de 8 ans. Les contemporains ne sont pas arrivés à découvrir, ni personne, après eux, pourquoi Louis XIV et Louvois attachaient une importance capitale à empêcher Lauzun d'avoir aucune nouvelle. De quoi avait-on peur? Il y serait allé du salut de la France, que les précautions n'auraient pas été plus minutieuses. Un jour, Lauzun va recevoir son linge qu'on lui envoie de Saint-Germain. Louvois écrit à Saint-Mars, 2 février 1672.
Vous le ferez blanchir 2 ou 3 fois avant de lui donner.
Saint-Mars tient à montrer qu'il a compris et répond: 20 février.
Je ne manquerai pas de faire bien mouiller le linge que vous m'enverrez de monsieur de Lauzun. Et après l'avoir visité par toutes les coutures, toute écriture faite sur le linge s'en va quand il est mouillé. Tout celui qui sort de sa chambre est mis dans un baquet plein d'eau, après l'avoir visité. Et la blanchisseuse l'apporte, venant de la rivière, pour le faire sécher au feu devant mes officiers, qui en ont le soin tour à tour, toutes les semaines. Je prends cette précaution-là, aussi pour les serviettes. Une autre fois, on a arrêté près de Pignerol un ancien serviteur de Lauzun, qui s'est tué en se voyant pris et sur lequel on a trouvé des lettres chiffrées. Aurait-il eu quelque commerce avec le prisonnier? Cette pensée jette Louvois dans une agitation inconcevable. Il veut à tout prix tirer la chose au clair, et il trouve le temps, en pleine guerre de Hollande, d'écrire lettre sur lettre à Pignerol pour talonner son monde. On a arrêté les complices présumés du mort. On s'en est même fait livrer, par voie diplomatique, deux d'entre eux, qui s'étaient réfugiés à Turin. Il faut les faire parler par tout moyen, de quelque manière que ce puisse être. Il faut savoir si M. de Lauzun a eu des nouvelles. Le personnel de Pignerol en est affolé. Un officier écrit à Louvois pour le conjurer de lui dénoncer les suspects parmi les soldats sous ses ordres, afin que je les arrête et les attache comme des scélérats. Et si les deux neveux qu'il a dans la citadelle se trouvent être les coupables, sera leur premier bourreau. 10 septembre 1672. Saint-Mars est humilié et offensé qu'on le soupçonne de s'être laissé berner. Il en devient féroce pour les misérables qui lui ont attiré cette insulte, et il les mettrait volontiers à la torture. « Car pour vous dire la vérité, » écrit-il à Louvois, « je voudrais fort trouver la moindre chose du monde contre un soldat ou un domestique, afin de les faire pendre. » 20 août. Quelques semaines plus tard, il résumait en ces termes les résultats de son enquête. 7 octobre. « Je ne saurais empêcher que l'on ait eu l'envie d'avoir intelligence avec monsieur de Lauzun. Mais je puis bien répondre, sur ma vie, que l'on n'en a point eu. »
Saint-Mars eut encore un autre chagrin. Louvois lui recommandait sans cesse de faire jaser son prisonnier et de lui en rapporter toutes les paroles, jusqu'aux plus insignifiantes. Mais Lauzun ne voulait rien dire.
« Je ne sais d'où vient, » écrivait naïvement Saint-Mars. « Il se méfie tant de moi, il n'oserait presque me parler. »
10 février 1672. Du 19 mars.
« Il est toujours dans une défiance de moi extraordinaire. »
Louvois insistait et recevait des lettres découragées.
« Lorsque je vais lui rendre visite, notre entretien est tellement sec et stérile que nous faisons souvent 100 tours de chambre, sans nous dire l'un l'autre aucun mot. »
Saint-Mars essayait de parler du temps. Monsieur de Lauzun l'interrompait sous prétexte que le temps lui était bien indifférent, puisqu'il ne voyait, de sa basse voûte, ni lune ni soleil. Saint-Mars, s'informer gracieusement de sa santé. Monsieur de Lauzun coupait court en déclarant « Ma santé est inutile à tout le monde et qu'il ne se porterait toujours que trop bien. » L'autre ne savait plus que dire. Il enrageait. Lauzun le voyait et devenait encore plus taciturne. C'était de bonne guerre. Au bout d'un an, Saint-Mars n'était pas plus avancé. 7 janvier 1673.
Quand je lui vais donner le bonjour ou le bonsoir, et que je lui demande comme il se porte, il me fait de grandes révérences, me disant qu'il se porte très bien, pour me rendre ses très humbles respects, s'il en était capable, après l'avoir remercié. Nous nous promenons quelque temps ensemble, sans nous rien dire, et comme je veux me retirer, je lui demande s'il n'a rien à me commander. Il me fait encore une très grande révérence et me reconduit jusqu'à la porte de sa chambre. Voilà, monseigneur, où nous en sommes, lui et moi, et où je crois que nous en demeurerons.
Il essaya de la contrainte. C'était lui qui fournissait Lauzun de tout, qui l'habillait, le meublait, lui achetait des pincettes ou lui commandait une perruque. Il se dit qu'un moyen certain de le faire parler serait de ne plus rien lui donner qu'il ne l'eût demandé. Lauzun inventa aussitôt un langage muet. Saint-Mars apercevait en entrant quelques objets hors de service, placés en parade, et ayant l'air de lui faire signe.
« Quelquefois, écrivait-il, je ne fais pas semblant de prendre garde à cela afin de l'obliger à me demander. »
6 mai 1672. Lauzun dirigeait alors sa promenade devant l'objet en parade, et Saint-Mars se trouvait forcé d'avoir compris. Le valet était presque aussi fermé que le maître. Saint-Mars ne cessait de se lamenter de la peine que lui donnaient
ces gens-là.
Les valets de prisonniers d'État suivaient le sort de leur maître. Il ne repassait le seuil de son cachot qu'avec lui, c'est-à-dire jamais. Dans beaucoup de cas, ce qui rendait extrêmement difficile de s'en procurer. Celui de Lauzun était un méchant garçon qui s'était laissé gagner et refusait déjà, au bout de 3 mois, de faire son devoir d'espion. Saint-Mars en était outré. 20 février 1672.
Avec votre permission, je le mettrai dans un lieu que je réserve, qu'il ait fait jaser les muets après avoir demeuré 1 mois. Je saurai par là toute chose de lui, et je suis assuré qu'il n'oubliera pas la moindre bagatelle.
Réflexion faite. Saint-Mars finissait toujours par patienter, car comment le remplacer?
Tous mes valets n'y entreraient pas pour 1 million. Ils ont vu que ceux que j'ai mis auprès de Monsieur Fouquet n'en sont jamais sortis.
Louvois ne put jamais savoir, quelque désir qu'il en eût, à quoi songeait dans sa basse voûte le favori tombé. Il se dédommageait un peu les jours où Lauzun se mettait en colère, ce qui lui arrivait souvent. Lauzun ne pouvait pas digérer qu'il fût défendu à Saint-Mars de répondre à aucune de ses questions. Passe encore quand il demandait si la France était en guerre ou si mademoiselle était mariée. Mais pourquoi lui refuser des nouvelles des siens? Pourquoi lui cacher si sa mère était morte ou vivante? Son chagrin se tournait en fureur. Il laissait échapper un torrent d'imprécations et de plaintes amères. Et Louvois avait le plaisir d'apprendre, par le courrier suivant, que s'il se taisait d'ordinaire, ce n'était pas du moins faute de souffrir. Un jour, 28 janvier 1673, après avoir rapporté l'une de ces explosions, Saint-Mars ajoutait.
Il disait tout cela en pleurant à chaudes larmes et détestant sa vie malheureuse. Il se récria encore fort sur l'horrible et affreuse prison à basse voûte que je lui ai donnée, où il a perdu les yeux et la santé.
Ses cris de douleur retentissaient jusque dans Paris, en passant par le cabinet de Louvois et la chambre de Madame de Montespan. Et le public se demandait avec curiosité ce qu'avait fait Monsieur de Lauzun pour s'attirer un châtiment aussi rigoureux.
« Je ne veux jamais ni dire ni croire, écrivait mademoiselle, que ce soit par les ordres du roi. »
On comprenait bien que Louvois vengeait ses frayeurs et Madame de Montespan ses humiliations. Mais encore, fallait-il que le roi les laissât faire? Et le roi n'avait jamais eu l'air de prendre très à cœur leur démêler avec son favori. Il faut tenir compte que le XVIIe siècle n'avait pas plus de respect pour la liberté que pour la vie humaine. On n'avait de respect que pour le rang et la naissance, et on en avait alors tant que nous n'y comprenons plus rien. Ce même Louvois qui tourmentait Lauzun à le rendre fou s'était empressé de lui faire expédier sa vaisselle d'argent et l'avait invité à lui adresser ses plaintes si son geôlier se montrait impoli.
« Monsieur de Cinq-Mars,
écrivait le ministre,
à ordre de ne manquer jamais envers vous à ce qui est dû à votre naissance et au rang que vous avez tenu à la cour. »
12 septembre 1672. Pareillement, la naissance de Lauzun lui avait valu des meubles neufs, mais pas un objet, de quelque nature qu'il fût, pouvant fournir une occupation quelconque. C'était là le supplice, un désœuvrement absolu dans un lieu obscur, et jamais un écho de l'extérieur, pour empêcher l'esprit de tourner indéfiniment sur lui-même. Lauzun n'obtint que quelques livres à la longue, et toujours difficilement, après qu'ils avaient été examinés page par page. On redoutait les messages à l'encre invisible et les phrases qui renseignent sur les événements du jour. Saint-Mars, quand on lui en laissait le choix, s'en tenait au livre de piété, le tableau de la pénitence ou le pédagogue chrétien. On savait ce qu'il y avait dedans, et puis «
Cela pourra lui servir, disait-il, dans le désespoir où il dit qu'il est. »
On se rappelle que mademoiselle grondait son
« petit homme »
pour l'obliger à prendre soin de sa personne. En prison, Lauzun s'abandonna complètement. 20 avril 1672.
Il se néglige tellement qu'il y a près de 3 semaines qu'il porte un mouchoir cordelé autour de son cou, en façon de cravate.
Du 30 juillet 1672, plus de 7 mois après son arrivée,
Il n'a point encore fait balayer sa chambre, ni rincer son verre. Il est extrêmement négligé. »
Lauzun avait laissé pousser sa barbe, ce qui contribuait à lui donner l'air.
Négligé.
Saint-Mars prétendait qu'elle avait une demi-aune de long, 11 février 1673. Il se tient toujours malpropre à son ordinaire, tant sur lui que dans ses appartements. Les années passaient. En 1673, on élagua les arbres qui ôtaient le jour. Ce fut le seul changement. En 1674, Lauzun faillit mourir. Sa santé se délabrait et son caractère changeait. Il était devenu tranquille, les accès de colère à part, et très poli avec son geôlier, qui attribuait cette métamorphose au livre de piété et à l'eau bénite dont il l'avait pourvu. Saint-Mars le trouvait très souvent à genoux, disant ses patenôtres devant une image de la Vierge, et il avait bien de la joie du nouveau train de choses. Tout à coup, en 1676, au mois de février, Louvois reçut une lettre qui fut en un clin d'œil la nouvelle de Paris. Monsieur de Lauzun avait manqué de se sauver, et non point par la porte ni par la fenêtre, mais comme l'on ne se sauve d'ordinaire que dans les romans. Il avait entrepris de faire un trou au donjon de Pignerolles avec de vieux clous, de vieux couteaux, des débris d'ustensiles, et il avait réussi, à force de gratter, à percer l'épaisse voûte située en dessous de sa chambre. Lauzun se coula par cette ouverture et se retrouva, entre quatre murs, devant une fenêtre grillée. Il se remit à gratter, démolit l'un des angles de la fenêtre, descella l'un des barreaux et vit qu'il était encore à plusieurs toises du sol. Des serviettes amassées par sa prévoyance lui permirent de fabriquer une échelle de corde.
« La mieux faite du monde !»
écrivait mademoiselle avec admiration d'après l'échantillon expédié à Louvois. Il descendit par son échelle dans le fossé du donjon, repersa sous la muraille qui servait d'enceinte au fossé, rencontra un rocher et recommença un peu plus loin. Sa nouvelle galerie aboutissait dans une cour de la citadelle. Lauzun sortit de terre un matin au point du jour. Il y avait 3 ans qu'il grattait. C'était ce qui l'avait rendu si tranquille. Une porte ouverte, et il était sauvé. Il l'aurait mérité pour son industrie et sa patience. Mais tout était fermé, et il fut arrêté par une sentinelle incorruptible. On le ramena dans son cachot et Louvois lava la tête aux autorités de Pignerolles qui laissaient démolir murs et fenêtres, remplir une cour de tas de décombres sans s'apercevoir de rien. Il ordonna des travaux, de nombreuses mesures de précaution et Saint-Mars, très penaud, jura ses grands dieux qu'on ne l'y prendrait plus. Saint-Mars en fut pour ses serments. Plusieurs de ses prisonniers venaient précisément de découvrir le moyen de rendre visite à leurs voisins. D'après les récits de Saint-Simon, il semble que les larges cheminées de nos pères
fussent devenues les voies de communication ordinaires du donjon de Pignerolles. On faisait un trou au tuyau qui se refermait avec justesse pendant le jour et l'on s'aidait mutuellement à grimper et à descendre. Lauzun fut mis de la sorte en relation avec divers prisonniers, dont Fouquet, qui le crut fou en lui entendant conter son mariage manqué avec la grande mademoiselle. Ils devaient tous avoir l'air de ramoneurs. Saint-Mars ne sut pourtant ces nouvelles pratiques qu'après la mort de Fouquet. Lauzun était alors presque au bout de ses peines. La mort de son frère aîné, survenu en 1677, avait entraîné un changement considérable dans sa situation. Lauzun devenait chef de famille. Sa sœur, Madame de Nogent, représenta au roi qu'il y allait
de la conservation de sa maison,
que Monsieur de Lauzun put donner ordre à ses affaires et elle n'eut aucune peine à se faire écouter. Autant l'individu comptait peu, autant la maison était, pour ainsi dire, chose sacrée, même aux yeux de Louis XIV. Saint-Mars eut commandement de recevoir Madame de Nogent. Un autre de ses frères, le chevalier de Lauzun, et leur avocat, Monsieur Isarne, et de les aboucher avec son prisonnier, moyennant promesse de ne lui parler que de ses affaires. Il leur était interdit, tout particulièrement, de dire un seul mot, sous quelque prétexte que ce pût être, de Mademoiselle de Montpensier. On possède le récit de ces entrevues tracé par Isarne. Il ne faut pas oublier en le lisant que Lauzun avait grand intérêt à inspirer une vive pitié à des gens qui allaient retourner le dire à Paris. Après de longs préliminaires, Isarne en arrive à la première rencontre avec Lauzun, que personne n'avait revu depuis 6 ans. 29 octobre 1677.
L'heure de 2 heures étant venue, Monsieur de Saint-Mars, ayant fait retirer tout le monde, nous pria d'entrer dans sa chambre, où l'on rangea 6 chaises autour d'une table, et Monsieur de Saint-Mars, étant sorti, revint un moment après, menant Monsieur le comte de Lauzun, le soutenant sous le bras, car il ne pouvait guère bien se soutenir, soit à cause du grand air, de la grande clarté, ou de la faiblesse de sa maladie. À cette vue, j'avoue, monsieur, que nous fûmes touchés de pitié, car nous remarquâmes en lui une contenance si abattue, un visage si pâle, autant qu'il nous put paraître sous une barbe et une moustache fort longue, des yeux si remplis de tristesse et de langueur qu'il serait impossible de ne pas être ému de compassion. Je ne saurais vous exprimer la douleur de Madame sa sœur et de Monsieur son frère. On lui présenta une chaise près du feu devant le jour, mais il la retira, disant d'une voix basse et en toussant que le trop grand jour lui donnait dans les yeux et le feu dans la tête. Monsieur de Saint-Mars le plaça contre le jour, il se mit à son côté, et monsieur le commissaire de l'autre, moi, à côté de monsieur de Saint-Mars, ayant mon écrit devant lui sur la table, Madame de Nogent ne pouvait contenir ses larmes, et nous fûmes quelque temps sans parler. Lorsqu'ils furent tous un peu remis, Isarne entama son exposé des affaires à régler. À la première pause, Lauzun prit la parole. Il me dit assez froidement qu'étant depuis 6 ans
et commençant la septième, dans une prison fort étroite, n'ayant ouï parler d'affaires depuis un si long espace de temps, et n'ayant jamais vu qu'une seule personne, il avait l'esprit si bouché et l'intelligence si obscure qu'il lui était impossible de comprendre rien à tout ce que je lui disais.
Il ajouta des choses affectueuses pour sa sœur, des choses touchantes sur sa douleur d'avoir déplu au roi, et s'étant attendri au souvenir de ce maître bien-aimé, il porta son mouchoir à ses yeux et l'y laissa longtemps. Ce spectacle provoqua une telle explosion de larmes et de gémissements qu'il fut impossible de reprendre la conférence. Lauzun se retira sans rien dire avec Monsieur de Saint-Mars. On emporta sa sœur, évanouie. Le chevalier de Lauzun, malade d'émotion, alla se coucher et Isarne partagea leur affliction. Aux séances suivantes, Lauzun répéta qu'il ne comprenait rien à ce que disait son avocat, mais il lui donnait en même temps ses instructions, avec beaucoup de jugement et de clarté d'esprit. Il y eut encore des scènes d'attendrissement. Un jour, après en avoir obtenu la permission, il demanda si sa mère était vivante. Et il n'eut pas besoin de comédie pour rendre la scène impressionnante. À la dernière entrevue, il chargea sa sœur d'implorer pour lui la pitié du roi et le pardon de Louvois, en termes humbles et soumis, qui annonçait un vaincu, un homme brisé et désormais inoffensif. Soit compassion, soit encore, ainsi que le bruyant couru quelques combinaisons mystérieuses, cet appel produisit une série d'adoucissements qui aboutirent à une demi-liberté. Lauzun en était à donner des dîners et à acheter des chevaux de sel pour monter dans la cour ou sur les bastions. Quand survint un détachement de mousquetaires chargé de le conduire aux eaux de Bourbon, sous prétexte qu'il avait mal au bras, il quitta Pignerol le 22 avril 1681. Fouquet était mort, 23 mars 1680. Il ne restait à Saint-Mars qu'un seul prisonnier de marque. Le masque de fer était depuis quelque temps dans le donjon.